Père Antoine Biraud, vous êtes prêtre, vous avez été professeur de théologie dans différentes universités, à Toulon, à Ars. Et dans votre parcours, il y a une rencontre et une étude, un travail de recherche sur Hans Urs von Balthasar et Adrienne von Speer. Est-ce que vous pouvez nous dire, Père Antoine Biraud, comment vous est venue cette rencontre, cette étude, cette recherche?
Oui, quand j'étais au collège et au lycée, j'étais à Châteauneuf-de-Galore, dans la Drôme, là où vivait Marthe Robin, qui était stigmatisée, qui a passé 50 ans de sa vie, donc paralysée dans son lit, et qui revivait la passion de Jésus. J'ai grandi dans ce milieu, ce climat, comme ce climat tout naturel, quoi, du mystère chrétien, où au centre, il y a Jésus qui a donné sa vie pour le monde. Et ensuite, c'est en entrant au séminaire, au début des années 80, j'ai entendu mes professeurs parler du théologien von Balthasar et puis aussi de la mystique Adrienne von Speyer qui lui était liée. Balthasar, je ne l'ai pas lu à cette époque parce que quand j'ai essayé, ça me paraissait trop dur. Par contre, tout seul à la bibliothèque, j'ai feuilleté les ouvrages d'Adrienne et ça fait tilt parce que en cours, j'avais notamment des cours d'exégèse qui m'ont laissé très, très insatisfait. Tout ce qui tournait autour de la croix, je le trouvais trop superficiel. Et quand j'ai ouvert les livres d'Adrienne, j'ai tout de suite senti, ça c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. En fait, ça correspondait, je pense, à ce que j'avais comme vécu, enfin, l'air que j'avais respiré à Châteauneuf. Et je sentais que là, il y avait une authentique approche du mystère de la croix, où Jésus vit une substitution d'amour mystérieuse pour le monde, pour chacun de nous, et comme un mystère d'amour. Voilà, je crois que ça, c'était vraiment à l'origine.
Vous dites, et d'ailleurs vous dites même plus Adrienne von Speer, vous dites Adrienne,
oui.
On sent que l'intimité est déjà vécue avec cette mystique. Quand vous est-il arrivé vraiment cette illumination? Ça c'est vrai.
Je ne sais même pas exactement quel était le titre du livre. Je suppose que c'était l'un des volumes de son commentaire sur l'évangile de Saint Jean. Parce que dans ces années-là, dans les années 80, c'était les premières choses qui avaient été traduites en français. C'est presque au-delà des mots précis, je dirais.
Et alors, ensuite, vous avez plongé dans cette mystique?
Alors, à vrai dire, je ne l'ai pas lu systématiquement tout de suite. Ça va venir plus tard. Là, il y a comme eu un premier contact. Et puis, après, ça va se faire naturellement. J'ai fait tout le séminaire. Ensuite, j'ai été ordonné prêtre au début des années 90. Et puis, j'ai eu l'occasion donc, de faire une licence de théologie qui portait donc, sur l'œuvre de Balthasar, et notamment sur son œuvre qui s'appelle la théodramatique.
Alors, si je vous comprends bien, Adrienne von Speer a été pour vous comme une clé qui vous a permis d'ouvrir la porte de la théologie de Hans Urs von Balthasar.
Oui, je crois que c'est vrai. Les deux sont de fait vraiment très, très intimement liés. Et Balthasar lui-même a écrit toujours qu'il ne fallait pas séparer son œuvre de celle d'Adrienne.
Comment se sont-ils connus? Quelles étaient leurs relations? Qui est Adrienne von Speer?
Oui, une femme mystique, donc suisse, que Balthasar a rencontrée en 1940 à Bâle. Et Balthasar était donc jésuite. Voilà, Adrienne a vécu presque tous les jours des choses données par Dieu, au centre, la passion de Jésus. Et puis beaucoup, beaucoup de visions et d'expériences diverses de Dieu, du monde de Dieu. Du monde, de la réalité du monde qui est le nôtre, mais avec toute la dimension de Dieu. Alors presque tous les jours, elle dictait à Balthasar des explications sur les choses de Dieu. Et tous les jours, pendant à peu près une demi-heure au moins. Donc ça donne au bout du compte à peu près 16 000 pages de dictées que Balthasar a donc soigneusement écrites en sténo et puis ensuite publiées. Et ça donne une œuvre d'aujourd'hui qui compte environ 65 livres. Donc une bonne partie est traduite en français maintenant. Voilà, elle nous donne des trésors vraiment très très profonds parce qu'elle vivait. C'est-à-dire, quand on dit qu'elle avait des visions, ce n'était pas simplement une vision comme extérieure à la personne, le fait de voir quelque chose qui serait devant nous, mais il s'agit profondément d'une expérience. Elle voyait les choses en Dieu, elle les éprouvait, elle les vivait. Si par exemple elle voyait des saints, et comme elle a décrit par exemple la prière des saints, d'un très grand nombre de saints, plus de 250, bon. On trouve des descriptions, donc des portraits d'une page ou deux pour tous ces saints. Eh bien, Adrienne, en fait, non seulement voyait avec ses yeux, mais éprouvait, elle ressentait, elle vivait de l'intérieur. À chaque fois, elle éprouvait donc la chose unique, telle que le saint en question l'avait vécue. Et comment donc maintenant, du ciel, le saint permettait à nous, de la terre, d'avoir un certain accès intérieur au côté vraiment unique de sa prière.
Est-ce qu'on peut dire que la théologie de Balthazar aurait été aussi riche s'il n'y avait pas eu Adrienne von Speer?
Elle aurait été infiniment moins riche. On aurait eu une œuvre encyclopédique, ça c'est sûr, parce que déjà avant de rencontrer Adrienne, il a déjà publié déjà plusieurs livres et déjà des choses très remarquées où il y a une connaissance de la philosophie, de la littérature, de la culture qui est déjà exceptionnelle. Mais les choses concernant le mystère du Christ, de sa conscience, le mystère de la croix, la rédemption, la substitution à la croix, et le mystère trinitaire, finalement, tout cela, il va le recevoir exactement d'Adrienne.
Alors, nous sommes en période de Noël, Père Antoine Birot. Qu'est-ce que les études, la théologie de ces deux personnes peuvent nous donner aujourd'hui pour entrer dans le mystère de l'incarnation, voire même dans la kénose du Christ?
Alors, Adrienne et Balthazar expliquent dans leurs nombreux livres d'une manière très profonde comment, lorsque Jésus vient sur la terre, il vit quelque chose en le vivant non pas tout seul, comme une expérience qu'il fait de lui-même, mais c'est une affaire qui concerne toute la Trinité. Dans l'incarnation de Jésus, il y a vraiment toute la Trinité qui s'incline, qui se penche vers le monde. Ainsi, Jésus vient parce que, comme il le dira à de nombreuses reprises, c'est le Père qui l'envoie, c'est le Père qui a assumé la décision de nous l'envoyer. Et Jésus aussi se montre être accompagné par le Saint-Esprit pendant toute sa mission. Donc il y a vraiment les trois personnes qui sont engagées au plus profond dans cette mission. Et ce que nous voyons vivre, nous, directement par le Christ, en fait, a des répercussions autant sur le Père et sur l'Esprit. Les trois personnes divines vivent à part égale l'engagement dans l'envoi de Jésus pour le salut du monde.
Comment Adrienne von Speer parle-t-elle de Noël? Que voit-elle?
Elle voit comment tout est accroché, en quelque sorte, à la décision qui a été prise au ciel dans la Trinité pour l'envoi du Fils. Tout ce qui se vit en bas, sur la terre, lorsque Jésus est conçu dans le sein de Marie, et puis ensuite quand il naît à Noël, tout cela donc est suspendu à la décision divine prise au ciel de nous sauver et de descendre pour nous racheter. Ce qu'Adrienne voit de très profond, c'est que Dieu le Père est celui qui a assumé la décision de cet envoi, mais non pas du tout comme un supérieur qui aurait envoyé sans aucune concertation un serviteur quelconque faire quelque chose. Là, c'est une décision de trois personnes qui sont Dieu, éternel, toutes les trois. Dieu à part égale. Il y a donc en Dieu le mystère que le Fils de lui-même s'est proposé au Père. Le Fils de lui-même s'est mis à la disposition du Père pour ses plans sur le monde. Et alors, c'est un mystère de l'amour que le Père n'a pas voulu empêcher le Fils de se donner pour nous, mais le Père, dans l'amour, tout en assumant par avance le poids infini que ça allait représenter pour le Fils de devenir homme et de nous porter à la croix. Eh bien, le Père, par amour, parce que c'est le Fils lui-même qui l'a prié de pouvoir faire cela, le Père lui dit oui. Ça, c'est le mystère de la décision en Dieu, la décision prise dans le cœur du Père, de permettre à son Fils de se donner, comme le Fils lui-même l'a proposé.
Quelle est la place de l'homme dans cet échange trinitaire?
Elle est la plus grande qu'on puisse imaginer, parce que ça montre que Jésus nous voit vraiment comme les créatures du Père, avec une dignité infinie, car il est donc prêt à donner sa vie pour nous ramener au Père, malgré notre égarement, notre péché. Le Père, lui aussi, nous aime tant qu'il va nous confier à son Fils. Le Père va remettre au Fils tout le jugement.
Quand vous dites « le Père va nous confier à son Fils », est-ce que c'est cela qui se passe à Noël? Nous sommes en quelque sorte confiés au Christ dans l'incarnation?
Oui, c'est très vrai à Noël, parce que c'est vrai depuis le point de départ au ciel. C'est comme si le Père, pour parler humainement, a une telle confiance infinie dans son Fils. Il est tellement sûr de son amour que le Père nous donne à lui, nous confie à lui.
En quoi cela nous entraîne-t-il ?
Eh bien, pour nous, il y a un élargissement absolument inouï parce que Jésus va venir nous racheter, donc nous porter en lui, dans sa mission et dans la croix. Le but de la mission de Jésus étant de ramener le monde au ciel, donc en portant à la croix notre péché, pour que le péché puisse être détaché de nous et que nous, nous puissions être amenés vers Dieu. Quoi qu'on vive, quoi qu'il arrive, ce qui est le plus ferme, le plus sûr, c'est l'amour du Père pour nous, dès l'origine. De sorte que quoi qu'il arrive, cet amour, nous le savons, est intact. Et cet amour est notre rocher absolu.